L'hommage de Phébus.
Vous regardez s'éloigner Troie, belle cité, n'est-ce pas, mon neveu, surtout par ce matin tout éclairé de soleil. Ah, c'est une grande chance pour une ville que d'avoir donné naissance à un pape, car les beaux hôtels et palais que vous avez vus autour de la maison de ville, et l'église Saint-Urbain, qui, dans l'art nouveau, est un joyau, avec sa foison de vitraux, et bien d'autres bâtiments encore dont vous avez admiré l'ordonnance, tout cela est dû au fait qu'Urbain IV, qui occupa le trône de Saint-Pierre voici tout près d'un siècle, et pour 3 ans seulement, avait vu le jour à Troyes, dans une boutique, la même où s'élève à présent son église. C'est ce qui a donné de la gloire à la ville et comme un élan de prospérité. Ah, si pareille fortune avait pu échoir à notre cher Périgueux. Enfin, je ne veux plus parler de cela, car vous croiriez que je n'ai rien d'autre en tête. À présent, je connais le chemin du Dauphin. Il nous suit. Il sera demain à Troyes. Mais il gagnera Metz par Saint-Dizier et Saint-Mihiel, tandis que nous passerons par Châlons et Verdun. D'abord parce que j'ai affaire à Verdun, je suis chanoine de la cathédrale, et puis parce que je ne veux point paraître me joindre avec le Dauphin. Mais rapprochés comme nous sommes, nous pourrons à tout moment échanger messagers, dans la journée ou presque, et puis nos liaisons deviennent plus aisées et rapides avec Avignon. Quoi donc, qu'avais-je promis de vous conter et que j'ai oublié? Ah, ce que fit le roi Jean à Paris pendant les 4 jours qu'il s'absenta du siège de Breteuil. Il fallait recevoir l'hommage de Gaston Phébus, un succès, un triomphe pour le roi Jean, ou plutôt pour le chancelier Pierre de la Forêt, qui avait patiemment, habilement préparé la chose. Car Phébus est beau-frère du roi de Navarre, et leur domaine tout voisin, au seuil des Pyrénées. Or cet hommage traînait depuis le début du règne. L'obtenir au moment où Charles de Navarre était en prison, voilà qui pouvait changer les choses et modifier le jugement de plusieurs cours d'Europe. Bien sûr, la réputation de Phébus est venue jusqu'à vous. Oh, pas seulement un grand veneur, mais aussi un grand jouteur, un grand liseur, un grand bâtisseur et, de surcroît, un grand séducteur. Je dirais un grand prince, dont la peine est de n'avoir qu'un petit état. On assure qu'il est le plus bel homme de ce temps, et j'y souscris volontiers. Très haut, et d'une force à se battre avec les ours, au propre, mon neveu. Avec un ours, il l'a fait. Il a la jambe bien fendue, la hanche mince, l'épaule large, le visage lumineux, la dent très blanche sous le sourire. Et puis surtout, il a cette masse de cheveux d'un or cuivré, cette toison radieuse, ondulée, arrondie jusqu'au bas du col, cette couronne naturelle, flamboyante, qui lui a fait prendre le soleil pour emblème, ainsi que son surnom de Phébus, qu'il écrit d'ailleurs avec une F et un E, Phébus, parce qu'il a dû le choisir avant d'avoir un peu de grec. Il ne porte jamais de chaperon et va toujours nu-tête, comme les anciens romains, ce qui est unique dans nos usages. Je fus chez lui, naguère, car il a fait si bien que tout ce qui compte dans le monde chrétien passe par sa petite cour d'Orthèse, dont il est arrivé à ce qu'elle soit une grande cour. Quand je m'y trouvais, j'y rencontrais un comte palatin, un prélat du roi Édouard, un premier chambellan du roi de Castille, sans compter des physiciens réputés, un célèbre imagier et de grands docteurs eslois, tout ce monde splendidement traité. Je ne sais que le roi Lusignan de Chypre, qui est si rayonnante et si influente cour sur un si étroit territoire, mais il dispose de beaucoup plus de moyens de par les profits du commerce. Phébus a une rapide et plaisante façon de vous montrer ce qui lui appartient. Voici mes chiens de meute, mes chevaux, voici ma maîtresse, voici mes bâtards. Madame de Foix se porte bien, Dieu soit loué, vous la verrez ce soir. Le soir, dans la longue galerie qu'il a fait ouvrir au flanc de son château et d'où l'on domine un horizon montueux, toute la cour se réunit et déambule pendant un grand moment en un tour superbe, tandis qu'une ombre bleue tombe sur le Béarn. De place en place sont d'immenses cheminées qui flambent, et entre les cheminées le mur est peint à fresque de scènes de chasse, qui sont travail d'artistes venus d'Italie. L'invité qui n'a pas apporté tous ses joyaux et ses meilleures robes, croyant à un séjour dans un petit château de montagne, fait fort mauvaise figure. Je vous en avertis s'il vous advient un jour d'y aller. Madame Agnès de Foix, qui est Navarre, la sœur de la Reine Blanche, et presque aussi belle qu'elle, est toute cousue d'or et de perles. Elle parle peu, ou plutôt, on le devine, elle craint de parler. Elle écoute les ménestrels qui chantent à Queres Muntanes que son époux a composé et que les Béarnais aiment à reprendre en chœur. Phébus, lui, va de groupe en groupe, salue l'un, salue l'autre, accueille un seigneur, complimente un poète, s'entretient avec un ambassadeur, s'informe en marchant des affaires du monde, laisse tomber un avis, donne un ordre à mi-voix et gouverne en causant. Jusqu'à ce que 12 grands flambeaux portés par des valets à sa livrée le viennent quérir pour passer à souper avec tous ses hôtes. Parfois, il ne se met à table qu'à la minuit. Un soir, je l'ai surpris, appuyé contre une arche de la galerie ouverte, à soupirer devant son gave argenté et son horizon de montagne bleue. Trop petit, on dirait, monseigneur, que la Providence prend un plaisir malin en faisant rouler les dés à les apparier à l'envers. Nous venions de parler de la France, du roi de France, et je compris ce qu'il voulait me donner à entendre. Grand homme souvent ne reçoit à gouverner que petite terre, alors qu'à l'homme faible échoit le grand royaume. Et il ajouta, « Mais si petit que soit mon Béarn, j'entends qu'il n'appartienne à personne qu'à lui-même. »